Voilà. Entouré des épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu'il n'y ait personne pour faire acte de réparation afin de les en retirer. Vois, ma fille, mon cœur entouré d'épines, que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant par leur blasphème et leur ingratitude. Toi, du moins, tâche de me consoler, et dis que tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet, et me tiendront compagnie pendant 15 minutes, en méditant sur les 15 mystères du rosaire, en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. Impressionnant. On tourne la page. Ça, c'était le 10 décembre 1925. Le 15 février 1926. Revenant du jardin pour y vider la poubelle, Sœur Lucie trouva un enfant qu'elle avait déjà vu en fin d'année 1925, dans les mêmes circonstances. Lui demandant s'il avait demandé l'enfant Jésus à notre Mère du Ciel, comme elle lui avait demandé de le faire lors de la dite rencontre, l'enfant lui fit la réponse suivante. Alors là, il y a une erreur dans la traduction ou dans le livre. Lui demandant s'il avait... Enfin, elle avait vu un enfant qui devait lui indiquer l'enfant Jésus. Et là, l'enfant, lui répond directement, « Et toi, as-tu révélé au monde ce que la Mère du Ciel t'a demandé ?» C'est à cet instant que Lucie reconnut l'enfant Jésus. Elle lui expliqua pourquoi cela n'avait pas été encore fait. Elle en avait parlé au prêtre qui l'avait envoyé balader, bien sûr. Mais Jésus dit, c'est vrai que beaucoup d'âmes me reçoivent déjà chaque premier samedi en l'honneur de Notre-Dame et des 15 mystères du rosaire. Mais hélas, peu vont jusqu'au bout, et celles qui persévèrent le font pour recevoir les grâces qui y sont promises. C'est Jésus qui parle, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Révélation privée, vous pouvez ne pas y croire, mais c'est bien dit. Les âmes qui font les 5 premiers samedis, avec ferveur et dans le but de faire réparation au cœur de ta Mère du Ciel, me plaisent davantage que celles qui en font 15 dans l'indifférence. Il y avait une dévotion de 15 samedis. Mais pour aller au ciel. Mais pas pour aimer Dieu. C'est... Voilà. Lucie expliqua que bien des âmes ont des difficultés à se confesser le samedi et demanda à Jésus s'il permettait que la confession soit valide dans les 8 jours. Canoniste, sœur Lucie. En ce en quoi l'enfant Jésus... loi suprême, le droit canonique, ils sont... Oui, la confession peut être faite même au-delà de 8 jours, pourvu que les âmes soient en état de grâce, le premier samedi, lorsqu'elles me recevront. C'est beau, lorsqu'elles me recevront dans la Sainte Communion. C'est vraiment joli, Et que, dans cette confession antérieure, elles aient l'intention de faire ainsi réparation au Sacré-Cœur de Marie. Celles qui oublieront de formuler cette intention pourront le faire à la confession suivante, profitant de la première occasion qu'elles auront pour se confesser. Puis l'enfant disparut. Donc, se confesser, recevoir la Sainte Communion, réciter le chapelet et méditer 15 minutes les 15 mystères du rosaire. Alors, par la suite, voyez-vous, l'évêque de Léra va reconnaître ces apparitions de l'enfant Jésus de 1926 en 1939. Vous vous rendez compte? En 1939. Ensuite, l'enfant Jésus va lui permettre aussi qu'on puisse communier le dimanche. Apparition du 13 juin 1929 à Tuy. Sœur Lucie obtint de ses supérieurs l'autorisation de faire chaque semaine une heure sainte de 23h à minuit. Dans la nuit de jeudi au vendredi, page 16. Alors qu'elle était en prière, une lumière surnaturelle éclaira la chapelle, et sur l'autel apparut une grande croix de lumière qui s'élevait jusqu'au plafond. Sur la partie supérieure de cette croix, Sœur Lucie vit le buste de Dieu le Père, qui, sur sa poitrine, portait une colombe lumineuse. Clouée sur la croix, elle put voir notre Seigneur Jésus-Christ. À côté de lui, un calice et une grande hostie étaient suspendus. Des joues et de sa blessure à la poitrine, coulaient quelques gouttes de sang sur l'hostie et dans le calice. Sur le côté droit de la croix se trouvait Notre-Dame, telle que Lucie la vit à Fatima, avec son cœur immaculé dans la main gauche. Ce cœur avait une couronne d'épines et des flammes. Sur le côté droit de la croix, en grandes lettres formées par de l'eau cristalline, étaient marquées ces croix, ces mots, grâce et miséricorde. Notre-Dame dit à sœur Lucie, « Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. Elles sont si nombreuses les âmes que la justice de Dieu condamne pour des péchés commis contre moi, que je viens demander réparation. Sacrifie-toi à cette intention et prie. » Elle avait dit qu'elle demanderait la consécration de la Russie en 1917. C'est le 13 juin 1929 qu'elle l'exprime en donnant la précision que c'est le pape en union avec tous les évêques. Faut-il rappeler qu'en 1929, la persécution contre l'Église et le mépris le plus total pour notre Seigneur Jésus-Christ avaient conduit les communistes à fermer les églises et à condamner toute pratique de la religion. Sans compter les prêtres qui étaient tués, les églises détruites. Ça a été terrible. Elle écrit une lettre à son confesseur. « Le bon Dieu promet de mettre fin à la persécution en Russie si le Saint-Père daigne faire et ordonne aux évêques du monde catholique de faire également un acte solennel et public de réparation et de consécration de la Russie au très saint cœur de Jésus et de Marie. Et si sa sainteté le pape promet, moyennant la fin de cette persécution, d'approuver et de recommander la pratique de la dévotion réparatrice des cinq premiers samedis du mois. » Elle écrit ça en 1929 à son confesseur. Ça monte à Rome et... Plus tard, en août 1931, le Seigneur se plaignant dit. Donc, apparition à sœur Lucie en août 1931. « Ils n'ont pas voulu écouter ma demande. Comme le roi de France, ils s'en repentiront. » Waouh ! Elle est portugaise, sœur Lucie. Et Jésus fait de la politique. « Comme le roi de France, ils s'en repentiront, et ils le feront, mais ce sera tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. » Août 1931, c'est incroyable, hein ? Pourquoi notre Seigneur fait-il référence au roi de France ? Tout simplement parce qu'en 1689, Jésus-Christ se révéla à Sainte Marguerite Marie en ces termes. « Fais savoir au Fils aîné de mon Sacré-Cœur que, comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même il obtiendra sa naissance de gloire éternelle par ma consécration à mon cœur adorable. Mon cœur veut régner dans son palais, être peint sur ses étendards et gravé dans ses armes pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis et de tous ceux de la Sainte Église. » Mon père veut se servir du roi pour l'exécution de son dessein, qui est la construction d'un édifice public où sera placé le tableau de mon cœur pour y recevoir les hommages de toute la France. Ça sera seulement au XXe siècle qu'on construira le Sacré-Cœur. Eh bien, dis donc. Eh bien, Louis XIV ne l'a pas fait. Et un siècle plus tard, c'était la Révolution française. Et voilà. Et donc, voyez-vous, ça va être un échange de lettres. Et Monseigneur José Alves Correia da Silva va, comment dire, essayer de comprendre tout ça. Sœur Lucie, le 6 février 1939. Dans une communication intime, notre Seigneur m'a fait connaître que le moment de grâce dont il m'avait parlé en mai 1938 allait finir. La guerre, avec toutes les horreurs qui l'accompagnent, commencera bientôt. Le 6 février 1939, elle écrit ça à l'évêque. Imaginez la tête de l'évêque lorsque la guerre va éclater. Les nations qui souffriront le plus sont celles qui ont tenté de détruire le règne de Dieu. Il promet une protection spéciale au Portugal à cause de la consécration que les évêques en ont faite au cœur immaculé de Marie. Ce pays souffrira un peu de la guerre, laquelle se terminera lorsque la justice de Dieu sera apaisée. Elle insistait auprès de son confesseur. Le 18 octobre 1940, « Horrible, horrible !» disait-elle, cette guerre. « Je souhaite qu'il plaise à notre Seigneur qu'il se trouve quelqu'un pour s'intéresser auprès de son vicaire sur terre à la réalisation de ses désirs. Mais le Saint-Père ne le fera pas tout de suite. Il doute de la réalité et il a raison. Notre bon Dieu pourrait montrer par quelques prodiges que c'est lui qui le demande, mais il utilise ce délai pour exercer sa justice. » Voilà, le pape ne veut pas, et ben Jésus dit, eh ben tant mieux, comme ça, ça me permet de me défouler un peu, hein. Voilà, j'en ai marre. Sur le monde coupable de tant de crimes et le préparer à un retour plus complet au Seigneur. La preuve qu'il nous donne, c'est la protection du Saint-Cœur de Marie sur le Portugal, en regard de la consécration qui lui en a été faite, et le Portugal ne sera pas concerné par la Seconde Guerre mondiale. Ayant rappelé le fléau de la guerre civile espagnole, Sœur Lucie ajoute, tout cela nous serait arrivé pareillement si nos prélats n'avaient pas fait attention à la demande de notre Dieu et imploré de tout cœur sa miséricorde et la protection du cœur immaculé de notre bonne mère du ciel. Hein, mais ça sera le tour du Portugal dans les années 70. Voilà. Alors, je tourne parce que il est bientôt minuit, hein, quand même. Les offenses au cœur immaculé, page 19. Les blasphèmes contre l'Immaculée Conception, les blasphèmes contre sa virginité, les blasphèmes contre sa maternité divine en refusant en même temps de la reconnaître comme mère des hommes, les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence ou le mépris ou même la haine à l'égard de notre mère immaculée, les offenses de ceux qui l'outragent directement dans les saintes images. Voilà les cinq offenses. Alors vous avez des extraits de lettres extraordinaires dans ce que j'ai pu rassembler. Mais on va arriver au troisième secret. Parce que jusqu'à présent, la consécration de la Russie, est-ce qu'elle a été faite? Eh bien, jusqu'en 1989, Sœur Lucie disait que non. Le pape Jean-Paul II a essayé en 1984 sans citer nommément la Russie. C'est un vrai massacre, cette histoire de la consécration de la Russie, qui n'avait jamais été vraiment faite. Et là, vous avez toute une chronologie que je vous laisserai lire.
Et c'est là qu'il y a le point de discussion, parce que Saint Jean-Paul II a dit
qui en ont le plus besoin.
Voilà.
Oui. Page 26. Voilà. Ah, mais ce début de consécration a permis la chute du communisme. Mais maintenant, on va lire le troisième secret. Alors, si vous ne pouvez pas vous imaginer la manière dont les choses se sont faites. Page 28. Juillet-août 1941. En rédigeant son troisième mémoire, Sœur Lucie mentionne pour la première fois la division du secret de Fanima en trois secrets distincts. Le secret comprend trois choses distinctes, écrit-elle, et j'en dévoilerai deux. Hein, c'est la dévotion au cœur immaculé de Marie, la consécration et les cinq premiers saints du mois, et la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Au chanoine Galamba qui lui demande de rédiger le secret, Sœur Lucie répond qu'elle n'en a pas encore reçu la permission du ciel. En 1941, c'est un drôle de secret quand même qu'elle a dit le 13 octobre aux enfants là. Ou le 13 octobre ou le 13 septembre, je crois. C'est le 13 septembre. Tu le diras à François. François le savait. Hein. Octobre-décembre. Dans le quatrième mémoire, Sœur Lucie écrit la première phrase du secret. M. Portugal se conservará sempre au dogma da fé. Qu'elle fait suivre d'un etc. Juin 1943, une pleurésie frappe Sœur Lucie et fait craindre au chanoine Galamba et à Monseigneur da Silva qu'elle ne disparaisse avant d'avoir révélé l'ultime secret. Une entrevue mémorable à Valença do Minho, le chanoine Galamba suggère à Monseigneur da Silva de demander à Sœur Lucie d'écrire dès maintenant le texte du troisième secret, puis qu'elle le place dans une enveloppe cachetée à la cire. Le 15 septembre 1943, à Tuy, Monseigneur da Silva demande à la voyante de rédiger le secret. Mi-octobre, Monseigneur da Silva lui donne l'ordre formel d'en écrire le texte. Sœur Lucie ressentit alors pendant presque 3 mois une mystérieuse et terrible agonie. Dis donc, ça doit être... Qu'est-ce que ça doit être, ce secret, quand même? En 1943, elle n'avait pas toujours rédigé. L'évêque du lieu lui demande de le faire et elle n'a toujours pas la permission du ciel. Donc, n'imaginez pas que Pie XI l'a lu. En 44, à l'infirmerie de Tuy, la Très Sainte Vierge apparaît à Sœur Lucie, la réconforte et lui confirme que c'est bien la volonté de Dieu qu'elle écrive les paroles de l'ultime secret. 2 janvier 44, elle a enfin la permission de la Vierge Marie. 9 janvier, je peux rédiger. Mais elle résistait à l'évêque, hein, quand même. Hein. Mais c'est normal, hein, là. Elle confie à son directeur son désir de s'entretenir avec le pape Pie XII. Tellement elle a peur de ce secret. Non, c'est costaud quand même. Hein. Et donc Pie XII aura le miracle du soleil personnel, hein, pour croire à Fatima. Le 8 décembre, donc c'est rédigé. Hein. Et vous avez le jésuite Édouard Danis qui aura lutté contre Fatima toute sa vie, qui en 44 attaque Fatima. Bon, je passe. L'enveloppe contenant le secret est remise à Mgr da Silva qui ne le lit pas, quel saint homme. Mgr da Silva propose au Saint-Office de transmettre le secret à Rome qui lui dit « Gardez-le ». Ça ne nous intéresse pas. Vous vous rendez compte un peu ? 8 décembre 45, Mgr da Silva insère l'enveloppe de Sœur Lucie dans une autre enveloppe cachetée également à la cire, précisant qu'après sa mort, le secret devrait être transmis au cardinal Carrera. Oui, patriarche de Lisbonne. Jusqu'en 1960, de nombreux témoignages affirment que le secret devra être lu au monde en 1960 parce que la Sainte Vierge le veut ainsi. Elle se rend à Fatima, il est question qu'elle aille à Rome pour faire connaître le secret au Saint-Père. 52, elle est interrogée sur le secret. 55, le cardinal Ottaviani l'interroge sur le secret. Pauvre sœur Lucie, on ne peut plus, quoi. Le Saint-Office réclame une copie de tous ses écrits, ainsi que le manuscrit du secret en 56. En 57, Mgr Vagnasio porte au nonce apostolique à Lisbonne l'enveloppe scellée contenant le secret. L'enveloppe parvient au Vatican le 16 avril 1957. Vous comprenez pourquoi Pie XII ne l'a jamais lue ? Elle fut sans doute placée presque aussitôt par le pape Pie XII dans son bureau personnel, dans un petit coffre portant la mention « Secretum Sancti Officii ». Mère Pascalina confie à Robert Serroux que le secret se trouve dans l'appartement du Saint-Père, dans le coffre du secret du Saint-Office. Le 4 décembre 1957, mort du Saint-Homme Mgr da Silva. Sœur Lucie dit au père Fuentes au sujet du secret « Seul le Saint-Père et Mgr l'évêque de Fatima » pourraient le savoir, mais ils ne l'ont pas voulu. Pie XII meurt sans avoir lu le secret le 9 octobre 1958. À mon avis, comme c'était sur l'enveloppe, il faut le révéler avant 1960, je pense que Pie XII attendait 1960. Et puis il est mort. Le père Fuentes publie son entrevue avec Lucie, on lit partout, on la lit partout sans que son authenticité soit mise en doute. Un rapport anonyme émanant de la chancellerie épiscopale de Coimbra dénonce l'entrevue de Lucie Fuentes comme étant entachée de fraude. Donc ça, c'est parce que elle lui parle, elle lui dit « ça va pas voilà. ». Le 17 août 1957, Jean XXIII reçoit l'enveloppe du troisième secret et le lit dans les jours qui suivent. Il prend la décision de ne pas publier le texte alors que la Vierge Marie voulait cette publication en 1960. Le monde catholique reste donc dans l'attente unanime et anxieuse de la divulgation du secret. En février 1960, Jean XXIII aurait fait lire, parce que alors là, on commence dans les bruits, hein, aurait fait lire le secret au cardinal Ottaviani. Voilà. Tout ça s'est enterré. Et Jean XXIII meurt en 1963. Paul VI réclame le texte du secret et le lit. Et voilà. Le cardinal Cento, légat de Paul VI, dans son homélie, il résume en 2 mots le message de Fatima, prière et pénitence. Le cardinal Ottaviani parle du secret, c'est pas utile. Sœur Lucie demandera. Hein. En 1984, le 10 septembre, l'évêque de Fatima déclare à Vienne que le contenu du troisième secret ne concerne que notre foi et la perte de la foi. Ah. Je passe, pour pouvoir terminer d'ici 10 minutes. Voilà, Jean-Paul II n'ose pas le publier. Et ça finit par être publié. Je passe toutes les présentations à la presse et tout ça parce que le Vatican était pressé, mais parce que Dieu voulait, permettait cette connaissance. On ne pouvait pas l'enterrer comme ça, ce secret. Voilà le troisième secret, tronqué. Parce qu'il n'y a pas la phrase de Sœur Lucie. Mais il y a quand même un feuillet en plus qui nous est donné. Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Sachez qu'à Lourdes, la Vierge Marie avait dit la même chose. Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant, un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, montaient sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville, à moitié en ruine, et, à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieuses et religieuses, et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Tuit le 3 janvier 1944. Vous avez vu la phrase « Mais au Portugal se conservera le dogme de la foi ?» Et c'est où ? Ça y est pas. Donc, c'est pas complet. Et puis c'est tout. Vous voyez ? Et puis c'est tout. Alors, pour terminer, je pourrais vous dire que le 13 octobre 1884, Léon XIII eut terminé la messe dans la chapelle du Vatican, entouré par quelques cardinaux et membres du personnel, page 33. Léon XIII s'arrêta soudain au pied de l'autel, environ 10 minutes, comme en extase, le visage pâle comme la mort. Puis, partant immédiatement de la chapelle à son bureau, il composa la prière à Saint-Michel, donnant l'ordre de la réciter partout après les messes basses. Ceci se fit jusqu'à l'époque de tous les chambardements dans l'église, vers les années 1962-63. Lorsque son entourage lui demanda ce qui était arrivé, Il expliqua qu'au moment où il s'apprêtait à quitter le pied de l'autel, il entendit soudainement deux voix, l'une douce et bienveillante, l'autre gutturale et rauque. Les voix semblaient venir d'auprès du tabernacle. Tandis qu'il écoutait, il entendait la conversation suivante. La voix rauque, celle de Satan dans son orgueil, se vantait à notre Seigneur en disant « Je peux détruire ton Église ». La voix douce du Seigneur répondit « Tu le peux ? Alors, fais-le donc ?» C'est assez impressionnant, hein ? Vous savez que ce récit, on le trouve dans une revue religieuse des États-Unis, une revue catholique, telle qu'elle, hein, une revue des années 50, hein, qui reprend telle qu'elle, avec le supérieur religieux, le directeur de publication, tout ça, qui reprend ce récit. Tu le peux ? Alors, fais-le donc. Satan, pour cela, j'ai besoin de plus de temps et de puissance. Notre Seigneur, de combien de temps ? Satan, de 75 à 100 ans, et il me faut aussi un pouvoir plus grand sur ceux qui se livreront à mon service. Notre Seigneur, tu as le temps, tu auras le pouvoir, fais-en ce que tu voudras. Pourquoi notre Seigneur donne une permission pareille comme à Satan pour le patriarche Job ? Parce que les âmes peuvent se sauver, elles ont la grâce. S'il y a des tentations et des pressions épouvantables de l'extérieur, ça ne nous oblige pas à nous damner. On peut s'extraire du mal, on peut se relever, même si on est tombé très bas. Donc, si Dieu permet des tentations et aux ennemis du salut des âmes d'agir, il ne met pas notre âme en danger absolu. Le pape Benoît XVI, alors cardinal, le 17 juin 1999, nous vivons une apostasie de la foi. Ouais. Eh oui. Et l'entretien du père Fuentes, là, qui a été attaqué comme faux. Seul le Saint-Père et Monseigneur l'évêque de Fatima pourraient le savoir, de par la volonté de la très sainte Vierge, mais ils ne l'ont pas voulu pour ne pas être influencés. Le démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Vierge. Beaucoup de nations disparaîtront de la surface de la Terre. On est en 1957. Hein. La Russie sera l'instrument du châtiment du ciel pour le monde entier si nous n'obtenons pas auparavant la conversion de cette pauvre nation. Ce qui affige le plus le cœur immaculé de Marie et celui de Jésus, c'est la chute des âmes religieuses et sacerdotales. En 57. Hein. Le démon sait que les religieuses et les prêtres, en manquant à leur belle vocation, entraînent de nombreuses âmes en enfer. N'attendons pas que vienne de Rome un appel à la pénitence de la part du Saint-Père pour le monde entier. N'attendons pas non plus qu'il vienne de nos évêques dans leur diocèse, ni non plus des congrégations religieuses. Ben dis donc, sœur Lucie, hein. Notre Seigneur a déjà utilisé bien souvent ses moyens et le monde n'en a pas fait cas. C'est pourquoi maintenant il faut que chacun de nous commence lui-même sa propre réforme spirituelle. Le démon veut s'emparer des âmes consacrées. Il essaie de les corrompre pour endormir les autres dans l'impénitence finale. Il emploie toutes les ruses, allant même jusqu'à suggérer de retarder l'entrée dans la vie religieuse. La très sainte Vierge ne m'a pas dit que nous sommes dans les derniers temps du monde, mais elle me l'a fait voir pour trois motifs. Parce que le démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Vierge, où l'on saura de quel côté est la victoire, de quel côté la défaite. Aussi, dès à présent, où nous sommes à Dieu, où nous sommes au démon, il n'y a pas de moyen terme. Car les deux derniers remèdes que Dieu donne au monde sont le Saint-Rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie, et ceci étant les deux derniers remèdes, cela signifie qu'il n'y en aura pas d'autres. Voilà, hein. Achetez un chapelet, hein. Lorsque Dieu va châtier le monde, il épuise auparavant tous les autres secours. Or, quand il a vu que le monde n'a fait cas d'aucun, Dieu nous a offert avec une certaine crainte le dernier moyen de salut, sa très sainte mère. Car si nous méprisons et repoussons cet ultime moyen, nous n'aurons plus le pardon du ciel. C'est très joli ce qu'elle dit. Dieu voulait retarder le recours à sa mère. Vous comprenez? Parce que c'est le dernier. Avant, il faisait autre chose, il faisait des guerres, il faisait des machins, il envoyait Saint-Vincent Ferrier, il envoyait... Mais sa maman, si on n'est pas attendri par sa maman, avec son cœur tout mou, eh ben, ça va être son et lumière. Souvenez-vous que Jésus-Christ est un très bon fils et qu'il ne permet pas que nous offensions et méprisions sa très sainte mère. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Voilà pourquoi ma mission n'est pas d'indiquer au monde les châtiments matériels qui arriveront certainement si auparavant le monde ne prie pas et ne fait pas pénitence. Non. Ma mission est d'indiquer à tous l'imminent danger où nous sommes de perdre notre âme à jamais si nous restons obstinés dans le péché. Mais à la fin, mon cœur immaculé triomphe. Voilà, voilà. Et voilà le message de Fatima. Et là, vous avez ensuite tout le blabla, tous les textes qui suivent. Alors,